L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que vaut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Les cornichons de la
moutarde. Des racines de pissenlit, du nectar de chrysanthème, de la ficelle en crin de jument, et surtout, 6 cookies pour le goûter. Nous voilà prêts, chers auditeurs, à voyager ensemble en compagnie de la Morrigan, de Christopher et de Margot Saltel.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Margot Saltel, bonjour.
Et bonjour.
Bienvenue à la table de l'épluche libre.
Merci beaucoup.
Vous êtes illustratrice?
Oui.
Et vous signez récemment le dernier tome, donc le tome 3, le tome final du Royaume d'après, qui est une BD destinée à la jeunesse, parue aux éditions Le Lombard.
Tout à fait.
Alors, comment vous sentez-vous suite à cette parution ?
Une part de moi est soulagée parce que c'est quand même beaucoup d'années de travail, mais je suis quand même très triste de ne plus dessiner ces personnages qui sont avec moi depuis 2022 maintenant, donc même 2020 pour Marc Dubuisson qui est le scénariste, parce qu'il avait fait le scénario pendant le challenge de novembre qui s'appelle NaNoWriMo, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc depuis lui novembre 2020, donc c'est quand même une grosse partie.
Mais oui, mais alors justement, quelle est la genèse de ce royaume d'après? Quelle est l'histoire de ces personnages qu'on a introduits au début de l'émission?
Alors, ces personnages, on suit le petit Christopher, donc c'est dans une Angleterre victorienne, on va dire. Et une nuit, en fait, après avoir perdu sa mère, lors de l'accouchement de sa petite sœur est enlevée par un monstre et il doit aller la chercher dans le royaume d'après, donc ce qu'on appelle le royaume d'après, qui est bon, le royaume des morts, on va dire, en résumé. Et pour ça, il va devoir faire ami avec la sorcière du village, donc Morrigan, qui va l'aider à retrouver sa petite sœur.
Et donc, c'est une collaboration avec le scénariste Marc Dubuisson. C'est une collaboration qui s'est faite comment, en fait? Comment vous avez commencé à travailler ensemble sur ce projet?
Marc, ça fait longtemps qu'on se connaît d'Internet, on va dire, à la base. Et il voulait travailler avec moi depuis longtemps, donc merci. Quel beau compliment. Et souvent, je retardais parce que soit j'avais des projets, soit j'avais fait un burn-out aussi, donc ça n'a pas aidé. Et il s'est dit... pour tenter de me séduire avec un projet, il a écrit ce projet pour moi, en fait. Il s'est dit, eh ben, Margot aime beaucoup les sorcières, les fantômes, les démons, etc. Ces univers un peu dark fantasy, je sais pas comment on pourrait dire. Mais du coup, il s'est lancé un peu le défi de faire un scénario pour moi. Voilà.
Et donc, pour des lecteurs jeunes, en fait, finalement, puisque on peut, cette BD est lisible par toute la famille, finalement. Moi, je me suis régalée à lire cette trilogie. Mais j'imagine qu'on peut démarrer à 7 ans, 8 ans, comme quand on démarre les BD de manière classique.
Oui, c'est ça. Je crois qu'avec l'éditeur, on s'était dit 8-9 ans, parce que c'est de la lecture autonome. Et on aborde quand même des thèmes qui sont un peu plus complexes. Après, j'ai eu une lectrice de 6 ans qui était à fond. Donc après, ça dépend de chaque enfant aussi.
Et donc, il y a eu ce chemin de séduction, si je comprends bien. Et ensuite, le scénario s'est posé là-dessus, ou il y avait quand même une idée de départ de la part du scénariste ou de votre part? Comment se sont créés ces personnages avec lesquels vous êtes liés?
C'est vraiment Marc tout seul à la base, le scénario. Il m'a donné le scénario presque tel quel, qu'on a retravaillé ensuite quand on a signé, etc. Mais les personnages étaient déjà existants. Par contre, il m'a laissé assez libre dans le design des personnages. Il n'y avait pas grand-chose de décrit, etc. Et du coup, ça a été nourri entre nous deux. Donc, quand moi, j'ai créé les personnages, il s'est basé sur ce que j'ai fait pour après faire la suite de l'histoire, ajouter des détails, etc. Mais du coup, c'était vraiment lui, on va dire, le scénario.
Donc, et c'était prêt dès 2022?
Oui, on a signé en 2022. Ouais.
Du D'accord. Coup,
c'était déjà prêt. J'avais fait déjà mes petites planches test, etc.
D'accord, super. Donc, première BD parution 2024, mm-hmm. ensuite 2025 et là maintenant 2026 pour le grand final. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu, sans divulgâcher, mais mm-hmm. des personnages clés ? J'en mm-hmm. ai sélectionné trois. En premier, donc, le personnage à qui est dédié cette virgule, qui fait un peu particulier dans l'émission, mais donc le personnage de la Morrigan, mm-hmm. de la sorcière, qui vous a peut-être tant séduite donc, ce scénario. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors Morrigan, c'est une femme qu'on considère dans le village, du coup, où ils sont au début, comme la sorcière du village, donc elle est un peu mise à part. Les gens, les villageois ne l'aiment pas beaucoup. Et en final, au fur et à mesure de la bande dessinée, on va comprendre son histoire, d'où elle vient, etc. Et elle est extrêmement drôle. Moi, je l'ai beaucoup appréciée. Avec Marc, on s'est dit, en plus, dans le design, qu'on voulait vraiment en faire une femme un peu grosse, un peu joviale. On a envie d'être amie avec elle, en fait.
Ah oui, oui, on a envie de lui faire un câlin, ça, c'est sûr et voilà. certain. Surtout qu'elle pourvoit en cookies, donc...
C'est ça. Toujours prendre des petits cookies dans son sac. Et au final, derrière, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que derrière ce masque très jovial, etc., ou ce côté « Ah, c'est la sorcière, on l'aime pas », se cache quelqu'un de sensible avec une histoire complexe et qui compense en fait cette histoire complexe avec son humour. Voilà.
Elle est très affable, effectivement. Mais ce terme de Morrigan, moi, ça m'a rappelé d'autres lectures, mm-hmm. Et notamment des lectures autour de la mythologie, autour des mythes. Est-ce que ça a été votre inspiration ?
Oui et non. Enfin, on veut rappeler avec son nom et avec la figure de la sorcière tout ce que ça peut impliquer derrière, donc avec la fameuse Morrigan connue, etc.
Et est-ce qu'on peut développer sur cette Morrigan connue, en fait, recontextualiser un petit peu la légende ?
Oui. Enfin, après, je sais plus la légende.
Dans les grandes lignes.
Oui, ça reste une sorcière celte. C'était avec Merlin.
Oui, je sais plus, voilà, c'est ça. Ça fait partie de la mythologie celte.
Oui, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai voulu garder, par exemple, ce design celtique avec. Elle a des petits cabochons, il se fait un pas cabochon, qui lui permettent de tenir sa cape, qui viennent oui. du viking, etc. Donc j'ai voulu lui donner ce petit.
Voilà, c'est ça. Très particulier.
Voilà, donc j'ai gardé tout ce qui était runes, les chevaux roux, par exemple. Donc il y a ce côté celtique, mais en même temps, on ne voulait pas non plus que ça soit la vraie Morrigan, parce que ce n'est pas voulu non plus. Donc ça reste juste un petit hommage, on va dire, plus à cette culture-là et à ce personnage-là.
D'accord, très bien. Et donc cette Morrigan effrayante de premier abord, du moins à qui on va prêter tous les maux de la terre, elle va accompagner le personnage principal, donc le jeune héros qui s'appelle Christopher et qui va aller récupérer sa petite sœur. Donc là on est dans le tome 1. Christopher, donc un jeune héros assez archétypal finalement, ça c'était voulu ?
Oui, tout à fait. Après on l'a voulu quand même... assez neutre, on va dire, pour que les petits garçons ou les petites filles puissent se voir en lui. On a juste rajouté le côté qu'il est métisse, parce que sa mère est noire. Et du coup, ça rajoute un peu un détail sur une famille qu'on peut se dire un peu mise à part dans le village, etc., parce que ça reste dans l'Angleterre victorienne. Donc, même si son père a l'air d'avoir un travail, de vivre très bien, du coup, il y a ce petit côté où on se dit il a quand même vécu un peu comme Morrigan, un peu mis à part aussi.
Oui, c'est une famille qui, a priori, est un peu différente et ce qui peut expliquer aussi le manque d'engagement médical lors de l'accouchement difficile. Effectivement. Donc, Christopher qui n'écoute que son courage ou sa détresse, je ne sais pas, mais en tout cas qui suit la Morrigan, qui découvre le monde d'après. Et alors là, plein d'aspirations aussi. On parlait tout à l'heure en hors studio donc des mythes mexicains autour de la mort. Est-ce que ça a fait partie de l'inspiration pour le design, pour la direction artistique ?
Pas que. J'ai essayé vraiment de regarder tous les designs différents. Donc moi, je sais que je viens plus d'une culture avec tout ce qui était Beetlejuice, avec... même les films de la Laika Production, donc Paranorman, Coraline, etc. D'accord. Donc, toute une espèce d'esthétique.
Tout ça vient se mélanger.
Voilà,
en fait.
C'est ça. Ouais. Mais, et au final, pour moi, je voyais le royaume d'après en mode, parce qu'il n'y a pas d'aspect religieux là-dedans, donc c'était, c'est juste un monde où il y a tout le monde, donc il y a un peu de tout, il y a des démons, il y a des sorcières, il y a des fantômes, il y a des squelettes, il y a un peu de tout, quoi.
Un beau
melting pot.
Oui, un très chouette mélange, très coloré, très vivant, pas totalement sécurisant non plus, puisqu'on va parler de thématiques de trafic d'âmes, en fait, finalement, pour passer... au-delà sur un paradis espéré, en tout cas promis. Ensuite, je ne divulgue pas la suite. Et dans ce royaume d'après, on va rencontrer Cassie, qui est une petite fille qui a déjà passé dans le royaume, a priori il y a longtemps, on ne sait pas vraiment combien de temps, ainsi que Murphy, son compagnon, qui est un démon ailé, et qui vont venir soutenir en fait Christopher, c'est ça ? C'était une histoire d'amitié qui se lit très rapidement.
Mais avec cette histoire, en fait, on ne voulait pas parler de... Encore faire une histoire de... telle personne est décédée, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Donc, expliquer plus la mort, on voulait plus expliquer ce qu'est le deuil et comment on voit le deuil chacun. Donc, son père va le vivre d'une manière, lui va le vivre d'une manière plus complexe aussi, Christopher, parce qu'il doit assumer tout seul la responsabilité de sa petite sœur, il doit grandir plus vite que les autres enfants. Et du coup, pour moi, dans le deuil, ce qui est important, c'est l'amitié. Un de mes films préférés, c'est Stand By Me, donc, qui est adapté du livre de Stephen King, où on parle d'amis en fait ensemble qui vont se confronter à la mort et voir et grandir en fait et du coup c'est plus tous ces thèmes là qui me sont chers on va dire dans le bouquin
et qui ressortent effectivement dans tout le cheminement que Christopher fait pour retrouver donc sa petite sœur. Donc sujet abordé, la mort, la fin de vie, le deuil, le courage et l'amitié. Est-ce que j'en oublie?
Et ne pas se fier aux apparences, plus ça, parce qu'avec Morrigan, du coup, au début, où on se dit « Ah, c'est une sorcière », etc. Et aussi le côté ne pas assumer que telle personne a une vie facile, par exemple, avec Morrigan encore, ou même avec Christopher. Je sais pas, accepter les autres.
Oui. Parce que certains personnages, effectivement, sont rassurants par leur apparence, mais on ne sait pas jusqu'au bout si on va pouvoir leur faire confiance. D'autres sont de suite effrayants, mais pour des bonnes raisons, et certains, non, en fait. Et vont être, à la fin, assez clés parmi les démons. Quel accueil ont fait les lecteurs, jeunes ou moins jeunes, autour de cette trilogie assez atypique ?
On a eu des bons retours. En plus, par exemple, à la comédie du livre qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, j'ai eu des lecteurs et lectrices qui sont revenus chaque année pour avoir un tome. Ça sortait en avril-mai à chaque fois. Donc, ils découvraient la première année en 2024 et ils sont revenus en 2025. Et là, cette année encore, ils sont revenus. Beaucoup de parents hésitent au début, je sais, à acheter la BD parce que dès qu'on leur dit ça parle de deuil, ils sont là, oh là là. Ou dès qu'ils voient dans les premières pages ce qui se passe, c'est un peu complexe. Mais au final... dès qu'on passe ces deux premières pages, tout va bien.
Oui, c'est quand même une grande aventure. C'est quand même une grande aventure, mais c'est vrai que si les jeunes lecteurs, ils sont aussi prêts à entendre des sujets, ils sont aussi en plein questionnement.
Ils sont beaucoup plus demandeurs, en fait. Voilà. Les parents, souvent, sont un peu plus réticents, mais au final, les jeunes veulent, en fait, ce genre d'histoire.
Il y a une demande de compréhension du monde, finalement, et c'est par la lecture et c'est par ce genre de BD qu'ils y ont accès. Ok, merci beaucoup. Donc, on va passer à l'écoute de votre choix musical. Est-ce que je peux vous laisser annoncer le morceau?
Je sais que c'est il faut prononcer en anglais. Donc ce que j'ai choisi, ça reste dans la thématique du deuil, parce que ici on aime mettre l'ambiance. C'est un groupe écossais qui s'appelle The Twilight Sad, que j'aime beaucoup depuis plus de 10 ans. Ils ont sorti un nouvel album le mois dernier, et là c'est le single du nouvel album qui s'appelle Waiting for the Phone Call, et c'est une chanson sur le deuil, parce que tout l'album parle du décès de la mère du chanteur. Et cette chanson, c'est attendre le fameux coup de fil qui va annoncer ou pas ce qui se passe. Et je trouve que, comme la BD ici, qui sont des thèmes chers pour Marc et moi, c'est comment parler de sujets très personnels, donc la perte de sa mère, parce qu'il en parle vraiment, il ne dit pas universellement, etc. C'est comment ces sujets personnels peuvent faire quelque chose de créatif et au final qu'ils peuvent parler à tout le monde. Voilà.
On écoute.
Thank you.
Sitting in the front seat, head in my hands, waiting for the phone call telling me I heard gone. I'm sitting in the front seat, head in my hands, waiting for the phone call telling me I heard gone. There's a pain in me, no one can see. Gather around and come die with me. Watch me die. Watch me die. No goodbyes. No one can hurt you now. No, no one can hurt you now.
Écoutez L'Épluche Livre, nous sommes en compagnie de Margot Saltel, illustratrice et qui a sorti récemment donc, le troisième tome de la trilogie Le Royaume d'Après, dont nous avons parlé en première partie d'émission. Maintenant, ma partie préférée, le moment où on dévoile l'histoire des auteurs, où on s'intéresse à ce qui est caché un petit peu dans le dans l'atelier artistique. Est-ce qu'on peut commencer par votre histoire, Margot Saltel? Qui êtes-vous? Comment en êtes-vous venue à l'illustration? Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu mieux?
Oui.
Un petit peu plus en détail.
Je suis d'origine de Nîmes. J'ai fait les beaux-arts là-bas. Ça ne m'a pas servi à grand-chose pour ce que je fais actuellement. Mais c'était intéressant. Et après ça, en fait, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir dessiner parce que ça m'avait un peu dégoûté du dessin. Mais j'ai fait des rencontres qui ont fait que je m'y suis remise, etc. Et j'ai signé mes premiers contrats jeunesse il y a plus de 12 ans maintenant. Donc à la base, c'était vraiment du livre jeunesse. Donc je sais que mon premier contrat, par exemple, c'était Le Joueur de Flûte, par exemple.
Le Joueur de Flûte de Hamelin ?
Oui, chez Ozu.
D'accord.
Voilà. Okay. Et après, j'ai fait beaucoup de livres jeunesse. Après, j'ai fait du comics américain pendant 4-5 ans. Et là, du coup, avec Le Royaume d'Après, c'est ma première, on va dire, vraiment BD franco-belge européenne classique.
Donc, on est sur une BD franco-belge quand même. On peut dire ça comme ça.
Moi, je dis ça comme ça.
Ok, trop bien.
Après, je sais, voilà, les jeunesses ou autres, mais pour moi, c'est une BD franco-belge. C'est édité chez Le Lombard, donc c'est franco-belge.
D'accord, ok. C'est des caractéristiques... Enfin, j'aurais pas forcément attribué ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est précis dans le métier de...
C'est pour moi, c'est pas le même milieu que le comics américain. C'est pas les mêmes délais, c'est pas les mêmes formats. Okay. Même si là, on est dans un format plus petit. C'est vrai que l'homme d'après est très petit en format. Mm-hmm. Et avec beaucoup de pagination, parce qu'il y a quand même 90 planches. Mais ça reste des délais, on va dire, assez longs. C'est un an et demi par tome. Donc,
D'accord. Voilà. Donc, en fait, le franco-belge, c'est d'un regard professionnel que c'est nommé comme ça, finalement.
Oui, parce après, que c'est... Oui.
Un lecteur ne verra peut-être pas la relation avec Tintin, par exemple.
Non, même si c'est même éditeur, mais oui, mais non.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une petite question indiscrète et vous demander... Quels sont les livres qui vous ont marqué? Livres que vous avez lus ou livres que vous avez publiés?
Alors, on va dire, le livre pour moi qui m'a marqué le plus, c'était L'Histoire sans fin, que j'ai lu tardivement, bizarrement. J'ai été marquée par le film quand j'étais enfant. Je pense que ça se voit dans le Rome d'après, d'ailleurs.
À quel âge vous l'avez lu ?
Je l'ai lu, j'avais 30 ans.
Et à quel âge vous l'avez vu ?
Oula, c'était à l'époque quand il était sorti, donc je ne sais pas, 7 ans, ouais. Je ne sais plus, okay. C'est les années 90.
C'était un autre temps.
C'est ça, et j'étais absolument fan de la série animée aussi qu'il y avait eu.
Ah oui.
Mais, et c'est un livre qui m'a marquée parce que l'auteur, Michael Ende, mm-hmm. je ne sais pas le prononcer correctement, mais qui est allemand, en fait, a fait toute une histoire et une métaphore du nazisme dans ce bouquin et de ce que peuvent faire les régimes totalitaires sur l'imagination, sur l'enfance et comment on peut être manipulé. Et je trouve que la deuxième partie du bouquin, qui n'est pas dans le film du coup, est vraiment extraordinaire. Donc, sur la reconstruction de l'imaginaire et ce que ça peut faire en fait sur nous en fait. Et voilà.
Et cette seconde partie que vous avez découvert assez récemment du coup.
Oui, c'est ça.
Ok. Et donc on retrouve ça un petit peu dans le royaume d'après. Donc effectivement, il y a le côté autocratie dans le royaume mm-hmm. d'après. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est
ça. Et le côté. Je ne sais pas si on peut comparer, mais le néant qu'il y a dans l'histoire sans fin aussi, cette espèce d'être un peu étrange qui vient tout absorber, tout détruire aussi. Et le côté dans le film, surtout, tous les designs des personnages différents qu'il y a autour de l'impératrice, donc toutes ces créations.
La diversité dont on parlait en première partie. D'accord, voilà. Effectivement. Donc cette émission pour cette saison-ci qui s'achève bientôt d'ailleurs, hein, il reste que 3 ou 4 émissions. On focus sur les habitudes de travail, le processus créatif. Et donc, je vous pose la question posée à chaque invité. Quelles sont vos habitudes ? Comment créez-vous ? Est-ce qu'il y a un contexte ? Est-ce qu'il y a un lieu ou pas du tout ?
C'est assez... j'essaye, parce que comme je disais dans la partie d'avant, j'ai eu un burn-out. Et du coup, j'essaye d'être très rigoureuse dans mon travail. Donc, on a une pièce dédiée avec mon compagnon chez nous, où on a nos bureaux, etc. Donc, dans cette pièce, dès que j'y rentre, c'est pour travailler. Dès que j'en sors, je ne travaille plus. J'ai des horaires assez fixes et je prends tous mes week-ends, pour l'instant, tant que je n'ai pas de délai trop chargé à faire. Et j'essaye de m'organiser, de faire... d'abord, par exemple, pour le rhum d'après, j'avais tant de semaines pour faire le storyboard. Après, j'ai fait les croquis. Et après, la couleur, donc j'essaye d'être vraiment assez monomaniaque, presque, sur mon travail.
Oui, il y a une gestion du temps de travail et du temps personnel qui est importante. Donc, vous êtes illustratrice à plein temps, vous vivez pleinement de ce métier, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les invités, de tous les artistes, loin de là, malheureusement.
Oui, mais après, j'ai mis plus de 10 ans à vivre de mon travail, et pour l'instant, j'arrive à un stade où même l'année prochaine, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer aussi, donc ça reste quand même pas très stable.
Comment ça se passe justement ce côté gestion de projet, comment vous arrivez, c'est une anticipation sur quelques semaines, sur quelques mois?
Quelques mois, oui. Ouais. Même là, j'avais essayé d'anticiper après le rhum d'après, donc de travailler sur des dossiers pendant la fin du rhum d'après. Et au final, là, je suis encore en train de faire des dossiers parce que les éditeurs sont longs à répondre.
Des dossiers, c'est-à-dire ?
Des dossiers, c'est des projets qu'on peut faire seul ou à deux. Non, moi, c'est avec toujours un ou une scénariste, parce que pour l'instant, je n'écris pas mes projets. Et on fait un dossier avec plusieurs planches BD, un scénario qu'on propose aux éditeurs dans l'espoir que ça soit édité.
D'accord. Donc, un petit peu comme une présentation presse, mais à destination des éditeurs.
C'est ça.
C'est l'idée,
ça.
Avec les grandes lignes, je présume, et ensuite, ils se saisissent ou pas de l'opportunité de développer le travail.
C'est ça.
Ok. Ça doit demander beaucoup de temps.
C'est ça. Et c'est du temps de travail où on n'est pas rémunéré non plus, donc c'est complexe.
Oui, oui, oui. Non, c'est une sacrée gestion. Mmh. Et donc, vous travaillez sur votre lieu de vie, si j'ai bien compris. Donc, il y a aussi ce côté-là de ne pas être tout le temps en train de travailler, finalement. Donc, vous le gérez par cette pièce qui est bien définie, on ferme la clé, on jette la clé pour le week-end, c'est ça ?
C'est ça. Et en fait, j'essaye de me fixer à ces horaires-là. Il n'y a pas de distraction. Bon, il y a quand même Internet, mais il n'y a pas trop de distraction et je me force à faire mes petits horaires de travail.
Et ça depuis, votre épisode de burn-out ?
Oui, oui. Avant, j'essayais de le faire, mais comme je voulais trop en faire et qu'il y a eu beaucoup de dossiers en même temps, etc., j'en ai fait trop. Et finir à 4h du matin, c'est pas génial.
Non, ça ne doit pas être dingue, hein, effectivement. D'accord. Donc, vous êtes une illustratrice engagée, vous êtes une illustratrice, est-ce qu'on peut dire militante, sur certains sujets d'actualité pour votre profession ?
Oui, après, j'ai l'impression d'être militante tout court, en fait, entre guillemets. C'est pour mon travail, mais aussi même personnellement, on va dire. Oui.
Mmh. Sur quel sujet par rapport à votre travail ?
Alors, le plus obvious, on va dire, en ce moment, c'est toute ma lutte contre l'IA générative. Mmh. Et après, c'est, ben, par exemple, pour la rémunération, il y a la continuité des revenus avec laquelle on milite, avec les syndicats, et tout ce qui est mettre en avant les personnes de minorité de genre, donc femmes non binaires et personnes trans. Donc voilà, globalement.
Donc ça, ce sont des luttes professionnelles, mais donc, qui viennent de se faire en collectif, je mm-hmm. présume. La lutte contre l'IA, par exemple, alors rapidement, hein, dans quel but et avec quels moyens ?
Dans quel but ? C'est pour alerter surtout le public, parce que ben, là, c'est compliqué de leur dire arrêtez, mais c'est de leur dire d'où ça vient, pourquoi c'est dangereux, que ça soit pour notre travail en tant qu'artiste, mais aussi même pour la population en général. Et là, je suis dans un syndicat d'auteurs, donc le SNAP, qui appartient à la CGT, mais on est beaucoup d'autres syndicats auteurs à faire une inter-orga et de parler de ces sujets-là auprès même du gouvernement, etc.
Et vous arrivez à trouver une oreille attentive ?
Mais bof. Ben, ça, c'est compliqué. Il y a eu une loi, par exemple, qui a été proposée à l'Assemblée, mais qui a été enlevée sur la présomption d'utilisation de nos œuvres, mais du coup, elle a été rejetée.
Et on est encore sur les opt-out européens, c'est ça ?
C'est ça, c'est okay. ça.
Ce qui a quand même avancé. Alors, pour les auditeurs que ça peut intéresser, nous avions enregistré une émission, deux émissions même, sur la saison précédente, autour de l'IA, donc en compagnie de Margot, mais aussi d'autres invités. Donc voilà, si vous voulez pousser un peu plus ce sujet, n'hésitez pas. Par rapport à vos combats, vos luttes, j'aime pas le mot combat, j'ai l'impression qu'on va de suite s'énerver, mais à la volonté de plus d'inclusivité, de plus de représentativité donc dans votre profession, comment ça se passe ? Même question, hein, avec quels moyens, dans quel but ?
Moi, c'était plus une lutte personnelle, on va dire, mais là, dernièrement, depuis novembre dernier, il y a le Girl Code qui s'est monté. Mm-hmm. Donc, il y a un mouvement national, enfin, une collective nationale qui s'est montée suite à l'annulation du festival BD d'Angoulême.
Et vous en faites partie.
Et j'en fais partie, donc, de celle de Montpellier. On avait réussi à une dizaine d'autoristes à monter un événement en janvier-février, mm-hmm. pendant les dates du Festival d'Angoulême.
Sur les fêtes interconnectées.
C'est ça. Mm. Et là, on a refait la même chose pendant la Comédie du Livre à Montpellier, mm. donc avec des tables rondes sur, en parlant de lutte féministe, d'IA générative, de lecture jeunesse aussi. Donc, c'est aussi ce genre de collectif qui permettent déjà de se rencontrer, parce que comme on travaille toutes chez soi ou en atelier, on ne se rencontre pas. Mm-hmm. Et de se mettre en avant aussi, parce que à Montpellier, il y a des auteurs connus, mais on est aussi là.
Oui, oui, oui. Donc, ça vous permet finalement de faire corps, d'avoir mm-hmm. un collectif déjà identifié, c'est ça ? De créer des contacts. Et vous sentez que ce poids est en train de donner quelque chose ?
La tribune que les autrices ont signée l'année dernière, du coup, les 285 autrices qui ont fait un manifeste dans l'Humanité par rapport au Festival d'Angoulême, c'est ce qui a permis, on va dire, l'annulation du festival, qui a permis aussi qu'on en parle, qu'on parle de ces sujets-là. Donc j'ai l'impression que oui, on commence à avoir un peu plus de poids, et c'est en étant ensemble aussi qu'on peut avoir ce poids-là.
Et localement, à la Comédie du Livre, ça a été porteur aussi comme sujet ?
Oui, oui, totalement. On a eu beaucoup de succès. Enfin, beaucoup. On a eu du succès. Nos tables rondes, à chaque fois, étaient même plus que remplies sous la tente et dans la salle, parce que celle de l'IA était aux Gazettes. On a eu de très bons retours. Les gens sont venus après nous voir en dédicace pour en parler. Donc on a eu de bons retours.
Donc, pour les auditeurs intéressés, je mettrai le lien du site de la collective, mmh. éventuellement.
On a mis en rediffusion, d'ailleurs, toutes les tables rondes, si vous avez raté les tables rondes.
Faut pas hésiter à écouter. Dernière petite question, encore indiscrète. Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Très bonne question. Mmh. C'est de pouvoir faire des personnages complètement différents à chaque fois. Et c'est quand même satisfaisant d'être payée pour faire ce que j'aime. Donc, avoir la liberté de faire des personnages comme là j'ai fait dans le Rome d'après, vraiment un peu originaux et qui abordent des thèmes complexes. Et ça, c'est quand même chouette.
Donc la création, la liberté,
oui.
C'est moteur.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Margot.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accompagnés à cette table de l'Épluche Livre. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, et à bientôt.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre.